Canalem, on aime l'été. Bonjour à tous, bienvenue à Aime l'été, Catherine Bourderon au microphone et François Baruel. Bonjour François.
Bonjour Catherine.
Aujourd'hui l'émission Marthe Saint-Laurent, conférencière, auteure et chroniqueuse, éditrice. Elle nous parle pour en finir avec le jugement des autres et la culpabilité, publiée aux éditions Québec Livre, et de la page Facebook Les mots de Mira.
Et nous nous entretiendrons avec Monique Reginbald-Zeiber, vice-doyenne, ex-vice-doyenne, à la recherche et à la création de la Faculté des Arts de l'UQAM. Il sera question du travail chez les artistes peintres et écrivaines et du regard des femmes dans le processus de création.
Emmanuel Robitaille parlera des pensées positives, les 7 clés de la libération intérieure et les 5 phrases pour mieux commencer nos journées.
Oui. C'est un mot magique, hein, les sept clés de la libération intérieure. Et Nathalie Best, importatrice de poivre de la région de Kompot, au Cambodge, nous fera saliver avec sa passion, l'art du poivre.
Merci d'être à l'écoute et on aime l'été!
Parfois j'aimerais mourir tellement j'ai voulu croire. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te voir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Parfois j'aimerais mourir tellement y a plus d'espoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te revoir. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien savoir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus, mon amour.
Manu Chao, je ne t'aime plus.
Eh bien, nous avons l'honneur d'être avec Marthe Saint-Laurent, aujourd'hui conférencière et auteure et chroniqueuse éditrice. Elle écrit beaucoup, beaucoup de livres. 16 livres, Marthe. Bonjour d'abord.
Bonjour Catherine. Toujours un plaisir d'être ici. Je pense que je suis rendue au 18e.
Ah, quand même. Alors, aujourd'hui, on parle, pour en finir avec le jugement des autres et de la culpabilité, publié aux éditions Québec Livre. Selon une étude menée par l'Université de Harvard, les relations interpersonnelles sont au cœur du bonheur de chaque être humain. Est-ce qu'être heureux, ça s'apprend sur les bancs d'école?
Non. En fait, être heureux, c'est plutôt un état d'esprit. Et contrairement à ce que l'on croit, c'est pas des éléments extérieur, en fait, qui nous apporte le bonheur. C'est un état d'être à l'intérieur de nous. C'est la capacité de gérer les problèmes, de gérer les épreuves que la vie nous envoie. Et là, je parle pas de la pensée positive. Je parle plutôt de la psychologie positive, c'est-à-dire être capable de rebondir, être capable de sortir de la souffrance. Mais effectivement, des chercheurs sur une étude de 75 années ont trouvé que, en fait, ce qui était à l'origine du bonheur, mais surtout ce qui permettait de vivre plus longtemps et en meilleure santé, c'était d'avoir des relations harmonieuses.
Parce que dans ce livre-là, il est question de jugement d'autrui, de la culpabilité. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire sur ce sujet-là?
Mais je pense que c'était une continuité, en fait, dans mes réflexions, parce que j'ai écrit beaucoup sur le bitchage et puis l'intimidation, la cyber-intimidation. Donc, pour moi, ça allait de soi. C'est-à-dire, en fait, ce qui rend malheureux, et à la suite de cette étude-là qui m'avait vraiment frappée, ce qui rend les gens malheureux, c'est vraiment les conflits interpersonnels. Et c'est vrai que le soir, quand on se couche, ce qui nous rend malheureux, c'est-à-dire si on est en chicane avec notre chum, ou il y a une sœur à qui on ne parle plus, ou au travail, alors ce sont vraiment les conflits, les disputes qui rendent malheureux. Et ce n'est pas la santé, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le travail, ce n'est pas le succès. Alors, pour moi, je me dis, OK, les conflits, ça vient de mauvaise communication, ça vient aussi de l'ego, ça vient aussi du jugement des autres et de la culpabilité. Et souvent, on se sent coupable avant que les autres agissent ou fassent quelque chose, parce qu'on imagine leur regard, on interprète, et nous avons un regard sur nous, et on pense que les autres, comme quelqu'un, je vous donne un exemple très bête, quelqu'un qui vient de voler, ben il y a l'impression que tout le monde le voit comme un voleur, comme si tout le monde savait, et on est comme ça. Donc si nous, on a un regard condescendant à notre égard, ben on va penser que tout le monde nous voit de cette façon-là.
Donc vous êtes une fervente de l'autocompassion?
J'essaie, je le pratique encore parce que c'est pas simple. c'est jamais acquis complètement. Il y a des périodes où c'est plus difficile, mais c'est vrai que oui, je le pratique.
Et en tant que société, je me suis posé la question, est-ce que nous sommes assez outillés pour éponger les critiques acerbes d'autrui?
Non, on n'est pas assez outillés.
Bon, là, vous êtes la spécialiste. Qu'est-ce qu'on devrait faire?
Je ne sais pas si je suis spécialiste, mais c'est vrai, je me suis penchée sur la question quand même, peut-être un peu plus de... En fait, c'est ça la spécialisation, c'est de s'être penchée beaucoup plus d'heures que quelqu'un d'autre. Donc, c'est ce qu'on dit spécialiste. Mais je ne pense pas que je sois spécialiste, mais... quelle est la question, Catherine?
C'est que, dans notre société, oui. Comment on fait pour se protéger des critiques acerbes l'entourage.
OK, c'est ça. On n'est pas préparé. Non, mais c'est ça. On n'est pas préparé parce que je pense que quand on est jeune, on se fait dire, on entend en fait les parents dire qu'est-ce que les autres vont penser, qu'est-ce que les autres vont dire. Tiens-toi droit, ça sera pas beau, ou fais pas ci, ou fais pas ça. Et c'est pas en fonction de nous, c'est toujours en fonction des autres. Donc, faut pas parler en fait en mangeant parce que c'est pas beau pour les autres, mais dans le fond, faut pas parler en mangeant parce qu'on mange, point la ligne. Donc, on n'a pas... le message n'est pas pour nous, le message est toujours pour les autres. Donc, à la question « comment on fait? », ben, je pense qu'il faut apprendre à vivre le plus possible dans la pleine conscience. C'est-à-dire, je suis consciente de mes actions, mais aussi de l'intention. Pourquoi j'agis de telle façon? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce parce que je me sens bien? Est-ce que c'est pour mon bien-être? Ou si c'est pour la galerie, si c'est pour les autres?
À la page 49 de votre livre, vous parlez des briseurs de rêves. D'abord, qui sont-ils? Et qu'est-ce qui nous... Vous dites que le jugement d'autrui et la culpabilité sont interreliés. Qu'est-ce qui nous rend coupables? Donc, on parle de les briseurs de rêve, il y a le jugement, la culpabilité, c'est des choses, c'est trois choses qui rentrent en ligne de compte pour notre bien-être personnel. Mm-hmm. Comment on jongle avec tout ça?
Le briseur de rêve, en fait, c'est la personne qui vient nous dire qu'on n'est pas capable, qui vient nous dire qu'on n'a pas de talent pour telle chose. Ça se passe souvent quand on est jeune. Donc, si tu veux t'en aller en médecine, mais il y a quelqu'un qui va arriver qui va dire, mais toi, la médecine, tu devrais peut-être pas y penser parce que t'es pas très, très bon en sciences. Plutôt que de dire, écoute, t'es un peu plus faible en sciences. Oui, tu peux aller en médecine, mais tu devras travailler un peu plus que les autres. Tu vois, on dit à peu près la même chose, mais de manière très différente. Et, ou bien on vient de lui fermer la porte ou on vient de lui ouvrir la porte. Pour moi, le briseur de rêve ou la briseur de rêve, c'est la personne qui vient te casser ton rêve, qui vient te dire, ça, t'aimerais ça le faire, hein, mais tu peux pas. Donc ça, c'est la première chose. Par la suite, pour moi, la culpabilité puis le jugement des autres, c'est interrelié et c'est quand j'ai commencé à écrire sur le sujet, je me suis aperçue qu'il n'y avait aucun livre qui parlait des deux. En fait, il y a beaucoup de livres sur la culpabilité, il y a beaucoup de livres sur le jugement des autres, mais les deux ensemble, c'est comme si personne n'avait fait le lien. Et pourtant, il est très, très clair. Parce qu'on se sent coupable dans la mesure où on croit qu'on n'est pas capable d'être à la hauteur des attentes des autres. Oui. On n'est pas conforme aux attentes des autres. Ouais, à la hauteur. Ouais.
Et vous dites justement qu'il faut faire du ménage dans nos vieux dossiers.
Oui.
Est-ce qu'on a tendance à procrastiner là-dessus?
Oui, parce que c'est sécurisant des vieux dossiers. C'est sécurisant parce qu'on sait que l'inconnu fait peur. Donc, on traîne nos vieux vêtements, on traîne nos vieux amis, on traîne nos vieilles habitudes, Oui, c'est insécurisant de faire du ménage et c'est réconfortant, en fait. Même si on est mal, on préfère rester dans le mal-être que d'aller vers l'inconnu.
Mais c'est quoi faire du ménage dans les vieux dossiers? C'est se départir de relations toxiques?
Les relations toxiques, oui. En fait, c'est être capable d'analyser comment je me sens avec cette personne-là. Parce que moi, j'avais des amis quand j'étais jeune, puis après, on vieillit, puis on s'en va dans des sens inverses. Mais il faut toujours se demander, est-ce que cet ami-là me nourrit toujours? Est-ce que la relation est toujours aussi satisfaisante? Donc, faire du ménage dans les amis, oui. Faire du ménage aussi, du ménage dans les croyances, c'est-à-dire j'ai toujours cru ça. Est-ce que, avec l'évolution que j'ai, les livres que j'ai lus, les contacts et tout, et l'apprentissage, en fait, des expériences de la vie, est-ce que c'est encore bon de croire ce que je croyais il y a 5 ans? Donc, faire du ménage dans les dossiers, c'est à tous les niveaux. Ça peut être aussi de recentrer une relation, tu sais, avec nos parents quand on est jeune. On joue un rôle, on est un personnage, mais quand on vieillit, on devient un adulte. Mais souvent, ces relations-là sont à revoir. Il faut s'asseoir et dire, écoute, moi, je suis plus l'enfant que tu crois ou tout ça. Donc, pour moi, le ménage, c'est vraiment de revoir et de se demander, est-ce que ça, c'est encore utile? Est-ce que cette relation-là est encore nourrissante? Alors voilà, c'est de cette façon-là. En fait, c'est tous les dossiers.
Alors, je rappelle, nous sommes avec Marthe Saint-Laurent. C'est très, très, très passionnant ce que vous dites, Marthe. Conférencière, auteur prolifique, on revient après cette pause musicale.
Bien parti faire le tour du monde avec toi, dévorer les continents, balayer les frontières, parcourir les états de grâce de la planète entière, découvrir les mille façons de se jeter dans les bras de la joie de vivre. Vivre libre avec toi. On est tous des vers de terre, amoureux d'une star. Des bâtards et des mutants qui croient au Père Noël et qui chantent et dansent sur le cratère d'un volcan. Cracher ses temps de lave et de soleil et de joie de vivre. Sur ta vie. pensée qui décolle. Et que j'aurais envie de rêver en musique et paroles. Ma joie de vivre libre sur le chemin qui vibre, ivre sous mes pas, sous mes pas. La joie de vivre m'inspire. Je serais bien parti faire le tour du monde avec toi.
Jacques Higelin, la joie de vivre.
Merci Maurice Bolduc pour votre super bon choix musical. Nous sommes toujours avec Marthe Saint-Laurent. Marthe, vous avez un nouveau projet. Ça s'appelle Les mots de Mira. De quoi s'agit-il au juste?
C'est une idée extraordinaire de Mirabelle Poulain. J'ai rencontré par le biais de l'édition, donc qui est en train d'écrire un livre, et j'ai vu sa plateforme qui, en fait, ça parle de violence psychologique, mais de toutes les formes de violence, c'est-à-dire psychologique, physique, et elle est, c'est une femme absolument extraordinaire qui, tout comme moi, a vécu de la violence psychologique, parce que je pense que pour parler de ces choses-là, pour nommer vraiment, de trouver le bon mot, la bonne émotion, je pense qu'il faut l'avoir vécu. Et c'est une femme extraordinairement dynamique et qui est, qui a décidé justement de prendre son expérience et de l'offrir, en fait, aux autres et de dire... Écoutez, on peut s'en sortir. Donc, elle va dans les... son projet est particulier parce qu'elle va sur des sentiers que personne ne s'est aventuré avant ou personne ne s'est aventuré avant. Elle va parler du viol conjugal. Et ça, je trouve ça fantastique parce qu'il y a plein de femmes qui écrivent et qui disent « Ah oui, c'est ça ». Et on a vu dernièrement avec l'histoire de Roson que... En fait, au niveau de la cour, au niveau de la justice, si tu n'as pas de marque sur le corps, bien écoute, tu peux toujours te débattre puis essayer de prouver que dans ta tête, ça va plus bien depuis cette relation-là. Donc, la violence psychologique n'est pas reconnue. C'est encore la bête noire du malaise.
François, vous qui avez pratiqué la médecine, est-ce que la violence psychologique, c'est quelque chose qui revenait beaucoup lorsque vous étiez avec vos patients?
C'est constant. En fait, la violence psychologique, on la voit partout. On la voit, c'est pas seulement entre mari et femme, hein.
c'est
entre parents et enfants.
Au travail.
Et au travail, on la trouve absolument partout, puisque c'est ce qui régit des rapports de force et qui se permet de constituer apparemment une société avec ses chefs, ses sous-chefs, etc. Et on a l'impression que tout se fonde et tout se fabrique à partir de ces rapports de force et cette violence psychologique.
Oui. Le pouvoir et l'argent.
Hein. C'est ça. Mm-hmm.
C'est quoi le violentomètre? Il est question d'un violentomètre lorsqu'on regarde la page de Facebook Mira.
Oui,
c'est quoi au juste?
Alors, écoutez, je ne pourrais pas vous dire, Mira devrait être ici pour le dire, je ne le sais pas, mais je crois que c'est la capacité, d'après en fait ce que j'en connais, ce serait la capacité d'évaluer jusqu'où on est atteint au niveau psychologique par l'intensité de la maltraitance.
Est-ce qu'il y a des symptômes précurseurs? Je pose la question aux deux.
Mm-hmm. Ouais.
Quand on est victime de violence psychologique, est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait voir et qu'on ne voit pas? C'est quoi les premiers symptômes? Tour à tour, d'abord Marthe et après François.
Je pense que c'est pas de voir comme de sentir. Parce que voir, c'est difficile. Chaque manipulateur pervers narcissique s'y prennent de manière différente, même s'ils ont appris des techniques et qu'au bout du compte, ça revient au même. Il reste que je pense que c'est la façon dont on se sent en présence de cette personne-là. Comment cette personne-là nous fait sentir? C'est plutôt à l'intérieur et c'est comme ça, en fait, qu'il y a tant de gens, parce qu'il y a autant, non, pas autant, mais il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui vivent des relations toxiques comme ça. Et la petite voix, moi, je pense que c'est là que ça accroche et qu'à l'intérieur de nous, on sent que ce n'est pas correct. on sent qu'on n'est pas à la bonne place. On sent que cette personne-là nous fait faire des choses qu'on ne veut pas. On est mal, mais on n'est pas capable de le nommer parce qu'on ne sait pas justement c'est quoi la violence psychologique.
Ah, c'est comme une petite voix à l'intérieur.
Oui, oui, qui nous dit « t'es pas bien, sors de là, t'es pas bien ».
La violence psychologique, je crois qu'on la ressent parce qu'on est d'abord, on a l'impression qu'il y a un décalage.
Oui.
Si on arrive à se recentrer sur soi-même, on s'aperçoit qu'il y a un décalage avec ce qu'on est.
Oui.
Et puis, ou alors, si on ne peut pas, eh bien, il y a un sentiment de culpabilité aussi.
Voilà.
Puisque c'est avec ça que les pervers narcissiques fonctionnent.
Tout à fait, nous font sentir coupables.
Mais oui.
Parce qu'on n'est pas à la hauteur de leurs attentes.
Ouais.
On n'est pas ce qu'ils aimeraient qu'on soit.
C'est quoi les commentaires qui reviennent le plus souvent chez la gente féminine à cet égard?
Ben, en fait, c'est merci beaucoup, Mirabelle Poulain, pour votre page Facebook, pour votre site Internet. Enfin, je comprends ce que je vis. Oui, je vis exactement la même chose. J'ai vécu avec un pervers narcissique pendant 20 ans. Ça fait 5 ans que j'essaie de sortir de là. Une autre, j'aimerais en sortir. Je sais que c'est... Là, je comprends avec les mots, avec vos blogs, ce que je vis. Donc, j'aimerais en sortir, comment on fait, comment on guérit. Alors, il y a autant une prise de conscience de dire je suis capable de mettre des mots sur ce que je vis que comment je fais pour m'en sortir. Combien de temps ça prend à guérir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il y a beaucoup de femmes, en fait, qui partagent, qui disent « Oui, moi aussi, je vis ça. »
Est-ce que c'est pas parce que, justement, le pervers narcissique, en fait, c'est un jeu à deux, hein, la perversion narcissique.
Oui.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a le pervers narcissique et puis il y a la victime.
Mm-hmm.
On est souvent le pervers narcissique d'un autre. Et bref, c'est parfois partagé, en réalité.
Mais à des intensités différentes.
Mm-hmm. Mais est-ce que, quand elles commencent à parler, est-ce que c'est pas tout simplement parce qu'elles ont pris conscience que c'était un jeu à deux, qu'il fallait arrêter ce jeu-là?
Quand vous dites quand elles commencent à parler, c'est-à-dire les femmes que...
Oui, quand est-ce
oui.
que...
Mais en fait, je pense que, étonnamment, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, qui ne savent pas ce qu'elles vivent. Et je l'ai vécu quand j'ai commencé à parler du bitchage, c'est que les femmes disaient, enfin, je peux mettre un mot sur ce que je vis. Et je pense que beaucoup de femmes qui sont dans des relations de manipulation et qu'elles n'en sont pas conscientes. Elles vivent dans un malaise constamment. Et les mots de Mira sont justement là pour dire... Regarde, moi, j'ai vécu ça. Voici comment ça s'appelle. Voici comment ça se passe. Et là, les femmes s'identifient. Donc, je pense qu'elles n'ont pas conscience. C'est qu'elles arrivent, en fait, parce que les titres sont très accrocheurs. J'écris des chroniques, en fait, pour les mots de Mira. Et on trouve des mots, des phrases, en fait, des titres très accrocheurs pour que, justement, attirer l'attention, de dire... Comme mon premier blog, c'était mon premier article, c'était j'ai l'impression de devenir folle. Alors je me dis, il y a personne dans la vie qui a vécu avec un manipulateur et inversement des hommes avec des femmes qui sont pas le matin puis on dit moi je suis en train de virer folle.
Mais...
Donc c'est avec ça qu'on va les chercher et quand les femmes lisent l'article, ils se disent ah ouais. C'est ça que je vis.
Mais ce qui est intéressant, et j'apprends, j'apprends des choses en vous parlant. Première des choses, c'est écouter la petite voix en soi, si on est mal à l'aise, l'écouter. Donc ça, c'est la première des choses pour voir si on est aux prises avec du harcèlement psychologique. Et la deuxième des choses, une fois qu'on a vraiment ressenti ce qui se passe en nous, c'est de le dénoncer, c'est ça?
En fait, c'est d'en parler avec des gens de notre entourage pour voir, encore là, ça dépend, ça fait combien de temps qu'on est dans la relation. Si on commence, on a encore toute notre énergie, on a encore toute notre vivacité, on est capable de sortir assez rapidement de cette relation-là. Mais si ça fait 5 ans, là, ça va nous prendre de l'aide de l'entourage. Il faut en parler, il faut nommer des mots et il faut après... demander de l'aide aux gens qui sont autour de nous pour sortir de là. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est très compliqué de sortir d'une relation comme ça. Que ce soit avec un employeur, que ce soit avec des membres de sa famille, que ce soit avec des amis, ou c'est sûr c'est encore plus difficile en couple. Puis surtout s'il y a des enfants, surtout s'il y a des partages financiers, c'est extrêmement compliqué. Il y a des femmes, ça leur a pris 5 ans à divorcer. C'est affreux. Donc, ils ont le pouvoir, en fait, dans notre tête, dans notre cœur, ils nous démolissent complètement. Et ils vont aussi s'immiscer dans notre compte de banque.
Ah oui?
Ben oui, parce qu'ils veulent avoir le contrôle. Il y a même des gens qui ont le contrôle des cellulaires, c'est-à-dire des textos. Ils doivent lire tous les textos. Ils doivent lire les mails. Et c'est eux qui répondent. en faisant semblant que c'est la personne. Donc, ça devient très compliqué pour ces femmes-là, en fait, de sortir comme ça du jour au lendemain. Et évidemment, il ne faut pas oublier qu'on a affaire à des manipulateurs. Donc, aussitôt qu'on parle de partir, ben, ils savent sur quel bouton appuyer pour que tu te sentes coupable, que tu ne partes pas. Mmh. Souvent, tu n'as plus l'énergie quand ça fait trop longtemps que tu es dans la relation pour sortir de là. C'est pour ça qu'il y a tant de femmes aussi qui se retrouvent dans des centres pour femmes battues. Encore là, dans ces centres-là, il n'y a pas seulement des femmes qui sont battues physiquement, mais il faut que la loi, il faut que ça bouge. Et Mirabel Poulet, en ce sens-là, une mission absolument extraordinaire de dire, on va nommer la violence autrement que, pas seulement que la violence physique. Il faut que la justice reconnaisse.
Marthe, c'est quoi la page Facebook? Ça s'appelle comment?
Puis ça s'appelle Les mots de Mira.
Donc,
simplement.
On tape ça sur Facebook?
Oui, Mira, comme Mirabel, donc M-Y-R-A. Les mots de Mira. Donc, super page Facebook,
écrire,
super page. Oui, oui,
c'est
oui.
C'est un blog, on peut...
Absolument. C'est pas encore un blog, je crois. Présentement, il y a Mirabel qui écrit des blogs absolument percutants et extraordinaires. Je me suis jointe à elle, donc j'ai commencé à écrire des chroniques. Et il y a sa page Facebook, mais elle est très facile à rejoindre. Et moi, j'encourage.
Est-ce qu'elle a un site Internet également?
Oui, oui, voilà. Un site Internet qui s'appelle aussi Les mots de Mira.
Donc, on n'a qu'à écrire.
Les mots de Mira.
Et on est content, on est servi. On a soit un site web ou une page Facebook.
Oui.
Et vous écrivez des chroniques à l'intérieur de ces deux plateformes web, c'est
tout
ça?
Tout à fait.
Il y a des hommes aussi sur la
page. Oui, il y a des hommes qui demandent, qui disent qu'ils ont vécu ça. Puis il y a des hommes, mais non, il y a pas d'homme pour l'instant qui s'est joint à l'équipe de Mirabel parce que Mirabel veut garder ça pour l'instant pour les femmes.
Ouais.
Elle vend des livres, elle a une boutique en ligne superbe où il y a des livres de femmes, des auteurs et tout ça. Donc il y a des bracelets, c'est formidable.
Ouais, il faudrait y introduire les hommes aussi parce qu'il y a aussi des hommes.
Éventuellement,
qui sont
manipulés, mais là pour l'instant. Oui, mais les hommes, ils nous écrivent. On verra comment Mirabel fera cheminer son projet.
François, tu peux écrire un petit mot si tu veux. Merci beaucoup, Marthe Saint-Laurent, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes conférencière, auteure, chroniqueuse, éditrice. Vous avez aussi votre site web. On tape Marthe Saint-Laurent et on voit tous vos livres et vos conférences. Merci infiniment,
Catherine,
de nous avoir éclairés.
Merci.
Au plaisir.
Vous écoutez Aime l'été.
Et nous voici avec maintenant Monique Régimbald-Zeiber, qui était vice-doyenne à la recherche et à la création de la Faculté des arts de l'UQAM.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Alors, j'ai envie de vous poser des questions sur la création, ou du moins sur le travail des artistes. Vous êtes non seulement peintre, mais vous êtes aussi écrivaine.
Oui, il semblerait.
Ah oui, il semblerait plutôt. Vous avez même une maison d'édition d'ailleurs. Hein?
Oui, une toute petite maison
d'édition. Elle s'appelle comment?
Elle s'appelle Les Petits Carnets.
Ah.
Et ça s'appelle comme ça, tout simplement, des textes qu'on peut transporter, porter avec nous. Pas transporter, porter, qui sont de... En fait, les premiers livres étaient de la grandeur de la main. Petits Carnets.
Ouais, c'est ça.
Et avec donc une voix intime, là, qui se dégage de ces textes-là. Et très souvent des dialogues, donc des échanges entre les gens, dans des toutes petites voix.
Et en plus, vous êtes donc peintre, mais vous avez les deux en même temps, et est-ce qu'il y a une connivence ou même des connexions qui se font entre les deux arts?
Oui, et je vais reculer.
Oui.
D'abord dans la présentation, vous m'avez présenté comme ex-vice-doyenne à la recherche et à la création.
Oui.
Donc, effectivement... Je pense qu'il y a un raccord que j'ai identifié à travers ma recherche. J'ai fait une recherche à l'époque sur l'avant-garde russe. Et de là, j'ai tout d'un coup constaté qu'en gros, je faisais à une autre époque quelque chose que les artistes de l'avant-garde russe faisaient, à savoir mélanger ce qui s'écrit et ce qui se peint. Les artistes, beaucoup, la plupart d'entre eux écrivaient, étaient poètes et avaient fait les beaux-arts et allaient d'une discipline à l'autre. Et je me suis rendu compte, des années après avoir fait cette recherche-là, que je faisais la même chose, mais à une autre époque, et donc, j'oserais dire, pas du tout avant-gardiste, dans une autre posture. Donc, c'est comme, je dirais, aussi, d'avoir assumé que j'ai été lectrice bien avant que d'avoir été peintre. Hein? On commence à lire très tôt, et je le disais goulûment, toute petite encore, et donc je me suis rendu compte très vite que tout mon imaginaire avait été, construit depuis la littérature, fut-elle enfantine, jamais si enfantine que ça d'ailleurs, et bon, l'autre aspect, c'est, moi mon imaginaire c'était depuis la littérature ou dans le bois, hein, sur le lac.
C'est parce que c'est ça, là on parle de votre processus de création.
Et on y est là.
Ce que vous nous dites, c'est vraiment que ce processus-là est venu de la littérature et après c'est transposé dans vos toiles?
Non, ça travaille ensemble. Il n'y a pas de transposition. Je dirais pas que c'est une transposition, c'est une complicité, c'est une imbrication. Ça serait plutôt comme un tissage ou un tricot, si vous voulez. Par contre, quand vous reconnaissez qu'on est en train de parler d'un processus de création, je vous renvoie quand même à l'enfance et dire que c'est quelque chose qui ne s'improvise pas, c'est quelque chose qui s'est construit et qu'on doit reconnaître et en reconnaître aussi, je dirais, la longévité ou la durée. Ça se reconnaît et ça s'est construit dans le temps. Ça s'improvise pas. Et c'est peut-être un des mythes à déboulonner, tu vois, tout d'un coup. Me voilà créateur.
Mais vous utilisez justement la connivence entre l'écriture et
complètement,
la peinture.
Complètement, complètement.
Dans tout ce qui est réhistorisation des femmes.
Entre autres parce que c'est aussi... Bon, je reviens à l'avant-garde russe.
Oui.
Dans l'avant-garde, j'y tiens. Dans l'avant-garde russe, il y avait quelque chose de très important qui était la présence des femmes. C'était quand même inusité parce qu'on est au début du 20e siècle. Dans Refus global, donc on revient au Québec, il y a aussi cette présence-là. Donc dans les avant-gardes, très souvent, il y a les femmes. Et ça, c'était assez intéressant parce que on reprend certains modèles que j'appellerais des modèles discrets. Alors que les avant-gardes, par définition, sont pas nécessairement discrètes, mais là, ce sont des modèles discrets. Ces femmes-là, parce que, bon, on les oublie, on est rendu ailleurs et tout. Et dans mon travail, il y a la présence des femmes, mais des... Il y a un moment où je me suis dit, ah oui, finalement, je parle de l'histoire des femmes ou les femmes dans l'histoire. Les femmes dans la peinture, les femmes dans l'histoire de l'art. Je parle de la représentation des femmes. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais non, finalement, je parle du travail des femmes. Les femmes au travail, puis les femmes en travail. En travail, c'est le corps. Au travail, c'est ce qu'elles produisent. Et un peu plus loin, que ce qu'elles produisent comme objet. Posons des tisseranes. Je vous parlais de tricot tout à l'heure. Posons des tisseranes. Ce qu'elles produisent comme objet, bien sûr. Mais un peu plus loin, comme pensée aussi. Alors finalement, je me suis rendu compte que chemin faisant, j'allais du travail d'une femme au travail d'une autre femme, qu'elle soit peintre, qu'elle soit tisserane ou qu'elle soit écrivaine. Mais en même temps, je me rendais compte que je ne les connaissais pas. Comment ça se fait? Alors on revient à ce phénomène de leur absence de l'histoire, ou enfin, si elles sont présentes, c'est quelque chose, un très mince filet.
Oui, tout à fait.
Une toute petite voix.
Oui.
Alors, c'est ce que je ramène.
Et les filles du roi, est-ce que vous pouvez nous parler des filles du roi?
On pourrait parler de l'origine des choses.
Du filles du roi?
Les filles du roi d'ici.
Ah oui, c'est vrai.
C'est intéressant.
C'est un
parce
beau
que,
thème, ça.
J'ai travaillé des tableaux à partir des filles du roi. Mais les filles du roi, tu y penses, c'est un magma. C'est un nom. C'est une histoire avec pleine d'allusions un peu salaces. Elles n'ont ni visage ni rien. Qui était-elle et tout? Je me rappelle d'ailleurs avoir exposé une œuvre sur les filles du roi où il y avait autant de petits tableaux que de filles du roi, chacune son tableau. Et le scientifique en chef du Québec est venu voir l'exposition et en rentrant, il s'est arrêté et il a dit « Mais c'est le génome !»
Alors
donc,
ça, en fait.
Tout d'un coup, il y avait d'autres liens qui se faisaient à l'extérieur, si vous voulez, de ce que j'y avais vu ou ce que j'y avais mis ou ce que l'histoire y avait mis ou pas mis.
Ouais.
Mais voilà, on était devant quelque chose de cette nature-là.
Et pratiquement, comment est-ce qu'elle a été faite? Parce que c'est très joli, ce tableau. Hein?
C'est un tableau éclaté.
Oui.
Alors, comme je vous disais, ça partait d'une petite chanson aussi dans ma tête. Sa petite jupe carottée, son petit jupon piqué. Alors, j'avais les données sociologiques de chacune des filles du roi. Nom. À quelle époque elle a quitté la... Non. Née où? Baptisée dans quelle paroisse? À quelle époque elle a quitté la France? À quel moment est arrivée ici? Comment elle s'est mariée? Si elle savait signer ou si elle ne savait pas signer. Déjà, ça, c'est important. Et avec ces données sociologiques-là, chaque fille avait son petit carré. Donc, ça donne une œuvre immense. Alors que chaque... Comme le mot « les filles du roi » dans l'histoire, alors que chaque fille est presque rien. Un petit rectangle de rien du tout.
Merci beaucoup, Monique. On va vous retrouver juste après le petit morceau de musique que nous allons avoir.
Je n'ai pas peur de la route, faudrait voir, faut qu'on écoute les méandres au creux des reins, et tout ira bien. Le vent l'emportera.
Ton message à la grande ours, c'est la trajectoire de la course à l'instantané de velours, même s'il ne sert à rien. Le vent l'emportera, tout disparaîtra, le vent nous portera. La caresse et la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours, d'hier et demain. Le vent les portera. Génétique en bandoulière, des chromosomes dans l'atmosphère, des taxis pour les galaxies et mon tapis volant, lui. Le vent l'emportera, tout disparaîtra, le vent nous portera. Ce parfum de nos années mortes, ceux qui peuvent frapper à ta porte, infinité de destins, on en pose un, qu'est-ce qu'on en retient? Le vent l'emportera. Pendant que la marée monte et que chacun refait ses comptes, j'emmène au creux de mon ombre des poussières de toi. Le vent les portera. Tout disparaîtra. Le vent nous portera.
Le vent nous portera par les charbonniers de l'enfer.
Nous revenons donc aime l'été avec Monique Régimbald, qui est ex-vice-doyenne, mais aussi professeur.
J'ai été professeur. Voilà. Ex-prof aussi.
Est-ce qu'avoir été professeur et avoir vu des élèves travailler, réfléchir, créer, composer, est-ce que ça vous a apporté quelque chose plus que ce que vous auriez fait toute seule?
Oui. Énorme.
Énorme.
L'enseignement à l'université, pour moi en tout cas, c'était une manière de rester en vie. Ça pourrait être pour d'autres une manière de mourir. Notez, on l'a souvent entendu, mais pour moi, c'est une manière de rester en vie parce qu'on est devant des jeunes tout le temps. Nous, on vieillit, mais eux passent. Et ils ont toujours 20 ans, 21, 23 ans. Alors, c'est... Et à chaque fois, ils redemandent, et ce sont des nouvelles têtes qui demandent, mais qu'est-ce que vous, vous faites? Parce qu'enseigner, c'est en faire de l'art. Autrement, il faut sortir de là. Il faut mouiller sa chemise. Ouais, si on ne mouille pas notre chemise, on ne doit pas être là. Il faut être engagé dans sa propre pratique de la peinture pour pouvoir l'enseigner, pour avoir ce droit-là et ce privilège. Et donc, avec les jeunes, moi, j'ai découvert avec les jeunes, d'abord, je suis restée en vie. Ça, c'est un. C'était pour moi les étapes, les échanges les plus enrichissants. C'est avec les étudiants de la maîtrise, parce qu'ils cherchent, ils fouillent, ils veulent aller plus loin et ils nous amènent là, ils nous demandent aussi de les amener là. C'était extraordinaire. Et j'ai découvert le Québec aussi, parce qu'à l'UQAM, les étudiants arrivaient de partout. Moi, je connaissais personne qui venait d'Abitibi avant. Tout d'un coup, les gens d'Abitibi arrivaient. Et je dis Abitibi, mais je parle de toutes les régions comme ça. Et ça, c'était passionnant parce qu'on voyait tout d'un coup des modulations dans l'imaginaire québécois. C'est pas un machin monocorde, monotone ou je dirais lisse. Et ça aussi, c'est très intéressant.
C'est très intéressant, oui, c'est sûr.
Monique Régin-Van-Zimbert, donc vous avez été vice-doyenne à la recherche et à la création de la faculté des arts de l'UQAM. Vous avez été aussi professeur en peinture, c'est ça?
Oui, la peinture.
La question que je me pose, c'est quoi les valeurs que vous avez véhiculées chez les jeunes? Qu'est-ce que vous leur avez laissé en héritage?
Ah, mais c'est à eux qu'il faudrait poser cette question-là. Mais vous, j'avais tenté quelque chose. Un engagement envers leur travail, de se rendre compte que ça n'est pas un loisir, c'est un travail profond et très difficile, ingrat, parce que c'est jamais ou rarement reçu immédiatement. Un engagement envers eux-mêmes, c'est-à-dire leur intégrité intellectuelle et leur liberté. Et ça aussi, c'est difficile à négocier par les temps qui courent. Peut-être que ça a toujours été difficile à négocier d'ailleurs. Et donc, ça, ce serait finalement... En gros, ce que j'espère avoir transmis. Je ne sais pas si j'y suis arrivée, mais j'espère bien.
Est-ce que vous avez l'impression que votre art, actuellement, doit quelque chose à ses élèves?
Je ne sais pas dans quel sens votre question va. Si c'est en termes de forme,
oui,
etc.
C'est ça.
Peut-être que, effectivement... Je dirais un éloignement de certaines formes plus académiques, mais c'est peut-être que c'est venu naturellement aussi au fur et à mesure que on évolue dans notre art, on se détache de beaucoup de choses, on devient plus, je dirais, moins patient et plus, j'irais dire presque brutal. En tout cas, dans mon cas, dans mon travail, c'est ça. Et parfois, je pose des gestes de destruction dans mon travail qui me font penser à certains de mes étudiants à l'époque qui n'y allaient pas avec le dos de la cuillère quand c'était le temps de se débarrasser de quelque chose. Beaucoup de courage que ça leur prenait. J'ai peut-être appris ça d'eux aussi, de garder le courage.
Le courage?
Oui.
Dans quel sens?
Quand on fait un tableau, puis qu'on est content, il faut peut-être à un moment donné admettre qu'il n'est pas fini. il faut attendre. Et des fois, on sait qu'il y a quelque chose qui manque, mais on n'arrive pas tout de suite à placer ça. Et on sait très bien que si on ajoute quelque chose dont on n'est pas certain, on peut tuer le tableau comme on peut l'amener beaucoup plus loin. Le courage est là, de poser ce geste-là. Et les étudiants, parfois je les voyais faire, là, étaient extraordinaires parce qu'il y avait quelque chose qui était là, réussi, à peu près réussi.
Mais pas parfaitement.
Pas parfaitement.
Ouais.
J'ai des exemples simplistes pour ça, là, pour illustrer ça. C'est comme quand on va se faire couper les cheveux, là, on a une bonne coupe, mais c'est juste une petite affaire trop courte. Hein. Oui. Il faut attendre, aller chercher le centimètre. Ben, c'est quelque chose de cette nature-là. Il y a juste une petite chose. Je prends l'exemple de la coiffure parce qu'il n'y a rien qu'on connaît mieux que sa propre face et les cheveux et ce qu'on veut, ce qu'on attend. Puis quand ça n'arrive pas juste, ça nous fatigue. Ben, c'est la même chose. Il n'y a rien pour un peintre qui ne connaît pas mieux que son propre travail, son rapport au tableau. Qu'est-ce qui va sortir de là?
En fait, vous voulez dire aussi aller jusqu'au bout des choses?
Aller jusqu'au bout des choses.
Oui, c'est un risque.
Aller jusqu'au bout des choses.
Parce que des fois, on peut...
Aller jusqu'au bout des choses, ça veut dire se dépasser. Et ça, c'est un risque.
C'est ça.
Pourquoi c'est un risque?
Parce qu'on peut très bien échouer à l'autre bout. Et alors, ce qu'il faut peut-être apprendre à dire, c'est échouer. Pourquoi pas? Un échec, c'est juste un échec. C'est pas la fin de ta vie. Et c'est peut-être une balise vers quelque chose de plus important. Alors, moi, enfin, c'est comme ça que je pense l'avoir appris de mes étudiants.
Alors, vous êtes passionnante. Et c'est vrai que vous avez une vision qui est extrêmement, presque romantique d'ailleurs, hein, de la peut-être pas romantique, mais en tout cas...
Je suis très contente de vous entendre avaler le mot.
Je dirais même plus, c'est quelque chose, c'est presque un combat.
Ah.
Bon, en tout cas, est-ce que vous pourriez donner des exemples, des conseils aux auditeurs qui auraient envie de se lancer dans la peinture, par exemple?
Pensez-y à deux fois. Une envie, c'est passé. Une envie, c'est passé. Pensez-y à deux fois pour ce qui est de se lancer, mais pour ce qui est de tenter, faites-le dès que vous en éprouvez justement le désir. Et si ce désir-là s'avère être une urgence, alors il faut obéir à ça. Il faut obéir à ça. Et alors, essayez quand même d'aller chercher une vraie formation, parce que c'est quelque chose qui ne s'improvise pas. On peut venir au monde avec un talent, mais ce qu'on en fera, il faut quand même aller chercher les outils. Il faut aller chercher les outils techniques, mais les outils intellectuels aussi.
Il y a beaucoup de décrochage scolaire chez les jeunes, on sait. Qu'est-ce que vous leur dites?
Écoutez, ça dépend. Hein. D'abord, quand vous parlez de décrochage scolaire, moi, je ne suis pas là, je ne suis pas à l'école.
Je suis d'accord, mais à l'université. Ces jeunes adorables qui ne poursuivent plus leurs rêves, vous, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les encourager afin d'aller jusqu'au bout de leur mission de
bien, académique? De bien s'assurer qu'ils avaient choisi le bon rêve. Parce que comme on vit dans une société où le miroir aux alouettes fonctionne très, très bien, peut-être d'abord de reconnaître son rêve. Parce que personnellement, François disait tout à l'heure que je suis romantique, pas du tout. Et alors, je ne suis pas une personne de rêve non,
non
plus. Je ne suis pas une personne de rêve non plus. Je pense qu'il y a quelque chose... moi, je pense que si, par exemple, on se disait qu'on est dans une société des rêves brisés, parce que vous avez lancé le mot rêve, et je pense toujours au rêve américain, parce que c'est le premier rêve qu'on voit toujours arriver, et s'il y en a un dont je pense qu'il est brisé, mais en mille morceaux alors qu'il est, c'est celui-là. Et donc je me dis, peut-être que le mot rêve, c'est pas la bonne chose, c'est de se reconnaître soi-même. Et finalement, dans tout ce qu'on a en chair, en os, en volonté, en énergie, on a dépassé le rêve, on est dans une action, dans une activité. Et une action. Et je pense que c'est plutôt de ce côté-là que je les amènerais.
C'est vraiment formidable. Et donc, nous avons maintenant... Ben, merci beaucoup, Monique. C'est vraiment très, très, très gentil. Nous sommes absolument émerveillés. Et moi, je suis encore plus émerveillé que d'habitude. Vous avez un sens pédagogique extraordinaire. J'ai tout compris.
Je suis bien contente.
Merci beaucoup, Monique Régimbal-Zébert. Merci infiniment.
Droit devant moi, je cours. Vagabond de grand chemin, je fais l'amour et ma déroute. je verse des pleurs sur mes jours anciens. Ce n'est que de l'eau. Lorsque l'orage vient, je goûte la terre qui se change en parfum. Et si la pluie pèse ses gouttes, je chante auprès de mon âme, j'en attends la fin.
Benjamin Biolay, Melville Poupeau, ce n'est que de l'eau.
Je vais vous lire maintenant le texte de Les Dessous de l'Histoire, Marguerite B., les écrits, de Monique Régimbald. Et vous allez voir le style de Monique, qui est vraiment extraordinaire. L'œuvre est là, elle se déploie, énorme, seule sur son mur parfait, dans sa lumière parfaite, pure et impudique. Tu la vois pour la première fois en même temps que tout le monde. Tu trembles, tu as la nausée, tu es terrifié, tu ne dormiras plus. Ce pan d'histoire, c'est de la grandeur, du monument au mépris de ce que tu cherchais. Tu cherchais, tu cherchais, tu cherchais une intimité, une familiarité, une confidence, un désir à peindre. L'histoire et la peinture t'ont rattrapé. Elles ont repris le dessus dans la tonitruance de leur vérité. C'est impensable. Incrédule et brisé, tu recommenceras ta lecture. Si la vibration, la rumeur, la clameur, le tumulte, tout ce vacarme visuel n'était que mis à nu, imprévu et brutal, mise à nu des restes de voix de Marguerite et avec elle le cœur, des restes anonymes de voix insoupçonnées de toutes ces petites secrètes, ces petites cachées, des petites sœurs copistes, tant de mots, tant de tableaux, tant de noirs de peau, de blancs de peau, tant de sous, tant de sus, autant comme autant, devant comme dedans, en passant et incomplètement. C'était un texte qui s'appelle « Itinéraire ». C'est un extrait de « Itinéraire de délestage » de Monique Régimbald-Zeiber. On voit qu'elle est vraiment très, très complémentaire en réalité. Elle est très polyvalente.
Et on peut lire ces textes où, François ?
On peut les lire, c'est dans l'image manquante, carnet 1, 2005, qui ont été édités en 2005 à la Galerie de l'UQAM à Montréal.
Très bien, mais merci beaucoup. C'est une belle lecture.
C'est un très beau texte.
Merci beaucoup.
Eh bien, vous êtes toujours sur Canal M. Aime l'été. Et nous allons maintenant écouter la chronique d'Emmanuel Robitaille sur les 7 clés de la libération intérieure et les 5 phrases pour mieux commencer nos journées.
Vous écoutez Aime l'été.
C'est le moment de la chronique de la spiritualité, de la pensée positive, du développement personnel.
Avec Emmanuel Robitaille.
Bonjour à vous.
Bonjour
deux.
Emmanuel.
Allô.
Comment ça se passe?
Ça se passe très bien.
Très heureuse de venir vous voir aujourd'hui pour vous présenter effectivement une chronique spiritualité, ésotérisme, bien-être, pensée positive. Et aujourd'hui, du positif, on en a besoin et on en veut. On se débarrasse du poison et on injecte du bon. Avec les 7 clés pour se libérer intérieurement et 5 phrases avec lesquelles commencer nos journées pour émettre une intention et se mettre dans un état rapide de bien-être et surtout qui a un effet durable sur notre attitude pendant la journée. Parce qu'on le sait, il n'y a rien qui est réel dans la vie. Tout dépend de notre perception et une attitude positive, ça peut aider à être heureux dans la vie. Je ne sais pas si vous saviez ça.
Mais tout à fait. Percevoir
les choses positivement, avoir une attitude positive, go-getter, ça peut aider.
Donc, avec toi, Emmanuel, on va être outillés désormais.
Bien, je le souhaite, mais les 7 clés de la libération intérieure, je n'ai même pas été capable de retrouver la source tellement c'est répandu, ramené dans plusieurs textes. C'est quasiment mythique, mais c'est des choses qu'on sait, mais qu'on ne sait pas qu'on sait. Et on a toute notre petite clé avec laquelle on a un petit peu plus de misère. on a tout notre talon d'Achille. Bon, on le sait
toi.
Pas, vous saurez me le dire.
Oui, c'est ça. Mais...
Vous saurez me dire la vôtre, oui. On s'en parlera quand je vous aurai présenté. Mais on a tout notre petit talon d'Achille et en espérant que l'une des clés nous aide à respirer un petit peu mieux, en à se libérer de la lourdeur, de la souffrance qui nous pèse. Et chaque clé a un mot. Et un slogan. Donc, on peut se faire des petites accroches cerveau, là, pour s'en rappeler, comme des mantras, finalement. Puis s'en rappeler, on va en choisir une à la fois et on peut le travailler extrêmement longtemps. Êtes-vous prêts?
Oui.
Oui.
La première clé de la libération intérieure, c'est dédramatiser. Mmh, et la phrase qui va avec?
Oui.
Ce à quoi l'on résiste, persiste. Et on a tous déjà entendu ça, n'est-ce pas? Quand même. Et tout n'est pas prévisible. On a souvent tendance à être tendu, à être résistant face à tout ce qu'on peut pas contrôler, à tout ce qu'on prévoit pas. Et donc, toute cette idée de relativiser
Lâcher prise.
Oui et non, il y en a un qui est plus... Mais dédramatiser, c'est plus dans la réaction émotionnelle.
D'accord.
Actuelle. Okay. Il y en a un autre qui se rapproche davantage de lâcher prise, mais tu comprends. Donc, le lâcher prise dans la libération intérieure, elle a sa place.
Hein? De toute façon, il y a 7 phrases, donc. Faut nuancer.
Alors, vous noterez la vôtre pour la fin de la chronique. Ouais, hein,
ouais,
si vous voulez nous le dire,
On la mettra dans un chapeau et on tirera au hasard après.
Donc, relativiser les choses, les stress, les problèmes, les imprévus, les situations désagréables qui se présentent, puis de se rendre compte que c'est pas la fin du monde et que, considérant que rien n'est permanent dans la vie, qu'il y a rien qui est plus statique que le changement, ce à quoi on réagit autant finira par passer également. Donc, quand on dédramatise, c'est qu'on se sent... Quand on dramatise, c'est qu'on se sent en danger. Donc, juste prendre le temps de se demander de quoi on a peur. Est-ce qu'on va mourir? Est-ce qu'il y a une menace réelle? Ça permet de diminuer largement la réaction forte qu'on a et savoir que ça s'en va aussi. Parce que ce à quoi l'on résiste, imprévu, surtout...
Résiste, ouais.
Persiste. Ouais. Deuxième clé.
Donc, gérer l'inconnu.
Ça aide un petit peu. Deuxième clé. S'enraciner. Ce que l'on fuit, nous poursuit. Et c'est facile à concevoir. Mais...
On dirait un vaudeville. claquement de porte.
Et c'est facile à concevoir quand on pense au plus grand exemple de fuite que sont les addictions. Drogue, alcool, travail... magasinage, malbouffe. Tout pour éviter une émotion, une situation ou pour s'éviter soi-même. Là, ça, c'est très fréquent. Et ô combien on le sait que ça annule pas le problème. Hein? On sait-tu
ça
ou on
repousse,
le sait pas?
Bien sûr.
Ben,
on le retrouve après.
Tout ce que l'on fuit nous poursuivre.
Donc, arrêter de mettre les choses sous le tapis.
Effectivement, ben, tout à fait, s'enraciner. C'est sortir sa tête de ses jeux vidéo, de sa télé, du doux parfum de la marijuana pour un moment et redescendre sur terre. Respirer permet d'ailleurs de s'ancrer énormément davantage dans l'ici, le maintenant, dans la vie et faire face à ce qui est présent. De revenir dans la réalité, si je peux m'exprimer ainsi, et on arrête aussi de se détruire par des comportements de fuite qui mènent nulle part. Parce que ce que l'on fuit nous poursuit, ce à quoi on fait face s'efface. Qui est la troisième clé de la libération intérieure, se responsabiliser. Ce à quoi l'on fait face s'efface. Donc, ça permet non seulement d'être connecté à ce qui est là, on a dit d'arrêter de s'en aller dans les airs, aux îles Mouk-Mouk, et de faire face à notre réalité.
En fait, c'est que quand on est devant un danger, on a peur, et une fois qu'on est juste dans le danger, on n'a plus peur.
Et en fait, c'est que ça nous permet de trouver des solutions. C'est ça qui est le fun, parce qu'il y a chaque problème son solution.
Exactement.
Donc, ça nous permet de réfléchir correctement à ce qui est là en face de nous, plutôt que d'attendre passivement. Prendre le taureau par les cornes, se rendre compte que notre bien-être est notre responsabilité et la première responsabilité qu'on a en tant qu'humain d'ailleurs, c'est considérer que tout ce qui nous touche négativement peut être transmuté par nous. Se responsabiliser, ce à quoi l'on fait face, s'efface. Quatrième clé, et t'en as si bien vers l'en début de chronique, François, le lâcher prise. Et son slogan, ce qui nous affecte, nous infecte. Toutes les émotions, disons-nous, durent 10 minutes. À moins que on ait de la difficulté à lâcher prise puis qu'on s'y attache. Et c'est le cas de plusieurs, voire tout le monde, sur au moins une émotion à un moment donné, quelque part. Parfois, on s'attache à une peine parce qu'on a l'impression que d'arrêter d'avoir de la peine, c'est enlever de l'importance à ce qui est arrivé et ce qui nous en a causé. Des fois, on s'accroche à notre colère parce qu'on a l'impression qu'arrêter d'être en colère, c'est synonyme d'accepter ce qu'on s'est fait faire. C'est des croyances, c'est des associations, c'est des impressions. Mais ce qui fait qu'on ne laisse pas aller ce qu'on devrait laisser aller...
C'est aussi ne pas lâcher sa colère, c'est continuer d'exister.
Oh oui, mais ça, c'est tout un autre pain, mon cher François. Mais tu as tellement raison. Tu as tellement, tellement raison. Donc, ce qu'on laisse nous affecter, nous infecte et ça donne lieu à des émotions, des états beaucoup plus cristallisés comme la rancœur et le ressentiment. Et ça ne permet pas le pardon, l'acceptation et d'avancer. Donc, lâcher prise, ce qui nous affecte, nous infecte. Cinquième clé, s'exprimer. Ce que l'on réprime, s'imprime. Et c'est un peu la clé qui se trouve derrière beaucoup de psychosomatisation. Tu ris, François, qu'est-ce qui te fait rire?
Parce que ça s'appelle l'enquistement.
L'enquistement, ben, vas-y.
Oui. C'est l'enquistement dans le passé et dans l'être, dans la manière d'être. C'est que tout ce qui a été réprimé, tout ce qui a été conservé, tout ce qui a été bloqué et empêché de faire surface s'enquiste à l'intérieur de soi et ensuite conduit à des conduites répétitives, des conduites dangereuses ou d'autres choses comme ça.
Ben, en fait, le corps peut traduire un paquet de choses aussi, comme ça. Oui, les comportements, pareil. Des émotions, on va être fâché. On est fâché après notre chum, notre blonde, mais on ne veut pas se le permettre. Mais on va être fâché après le conducteur, mais c'est pas tout après lui qu'on est fâché. Tout ce que l'on réprime s'imprime et ça peut même créer des maladies physiques. Donc, s'exprimer, puis ça peut non seulement jouer sur notre morale, notre enthousiasme, notre joie de vivre, notre vitalité. Donc, s'exprimer, oui, mais ça veut pas dire de s'exprimer n'importe comment, là, parler au jeu. Utiliser des techniques de communication non violente dont Thomas d'Azembourg est un grand ambassadeur, ça peut faire vraiment la différence.
Est-ce que c'est plus davantage nommer le problème, le voir et le nommer? Je trouve que d'habitude, c'est difficile de nommer ce qui nous tracasse.
Ah, mais ça, si on a de la difficulté à s'exprimer, c'est un autre problème. Il faut travailler notre capacité à s'exprimer. Ça, okay. C'est sûr. Si on ne sait pas comment exprimer
ça se fait pas tout seul.
Ou quoi
ça
exprimer, bien tout à fait.
Parce que ça nous dérange, mais on n'est pas capable de mettre le doigt là-dessus, c'est ça? Donc, s'exprimer, le nommer et l'extérioriser.
Absolument. Sixième clé, imaginer. Ce qu'on visualise se matérialise. Et la visualisation, elle est utilisée dans tous les domaines, par les hauts dirigeants comme par les plus grands athlètes. Et son pouvoir est peu à prouver. Il y a un enseignant de droit qui m'a déjà dit un jour, « Tout ce que vous pouvez vous imaginer s'est réalisé, est en train de se réaliser ou va se réaliser. » Non seulement pour illustrer que tout est possible, mais ça reflète également ce pouvoir-là qu'on a par notre imagination, par nos rêveries, de mettre des choses, des rêves, des objectifs en avant dans le concret. Donc, si la situation actuelle nous déplaît, sans fuir, bien sûr, se permettre d'aller faire un tour dans nos désirs profonds, ce qu'on souhaite plus que tout voir arriver et se laisser bercer par les images, les émotions qui sont stimulées par ces visions-là, ça donne un break à ce qu'on vit et ça nous redonne du pouvoir, de l'empowerment. Parce que comme le dit Einstein, la logique vous mènera du point A au point B, mais l'imagination vous mènera où vous voulez. Et la septième clé,
beau, ça.
Oui, c'est très beau, rayonner. Il y a deux versions, ce qui émane de nous nous revient à tout coup et ce que l'on bénit nous ravit, qui clairement met de l'avant cette idée de vivre dans la vie avec gratitude, que notre attitude, nos pensées sont plus importantes que ce qui nous arrive. On en a parlé en début de chronique, il n'y a rien qui n'est pas perception dans la vie. Pardon. Et qu'on parle souvent de cette histoire de boomerang qui est inclue dans le karma, dans la cause à effet, dans « pour chaque action, il y a une réaction ». Eh bien, ici, on vise à agir, penser et ressentir la vie positivement pour que le dit boomerang nous renvoie tout ce positif-là. Donc, vivre avec gratitude, c'est recevoir les grâces de la vie et ça enlève quelques poids sur les épaules. Disons-le, et parlant de gratitude, je vais quitter cette pièce et vous quitter, chers auditeurs, dans ces cinq affirmations qui ne sont pas du tout les miennes, c'est pas du tout mon idée, mais qui peuvent nous aider vraiment à commencer nos journées dans la gratitude et dans une attitude beaucoup plus positive et donc transformer les choses en positif.
C'est l'introduction à la psychothérapie active
voilà. Et
personnelle.
Ouais, voilà. Voilà. Mmh. Premièrement, je suis rempli de gratitude pour un autre jour sur cette terre. 2. Aujourd'hui, je me sens bien et en bonne santé. 3e phrase. Je fais les bons choix toute la journée en utilisant ma sagesse intérieure et toutes les connaissances que je possède. 4e phrase. Je suis content de ma vie et je savoure ce que j'ai. Et 5e phrase. Je suis patient et calme et je salue ce nouveau jour et les nouvelles chances qui me sont proposées. Et avec ces petits mantras-là, j'espère qu'on va tous passer une excellente journée.
Mais merci, Emmanuel.
Merci, Emmanuel. C'est très bien. C'est vraiment très explicatif. Et c'est vrai qu'on sait, c'est vraiment une introduction. Et tu as énormément de fondements dans toutes ces phrases-là. Il y a énormément de fondements dans la psychanalyse, la psychologie en général.
C'est ce que je vous disais. Dans le sens, on le sait, mais on ne sait pas qu'on le sait. Donc maintenant, c'est plus clair. Puis on a des petites clés, des petits accros mentaux et surtout des slogans, des mantras.
Mais c'est vrai que c'est un peu le début de la sagesse. Merci beaucoup.
Merci.
J'ai la gueule grise de Suikérance. Même plus d'humour pour me cacher. Faut que ça avance. J'ai ni vu ni connu. Sûrement que je n'ai jamais eu de chance. Je me le dis pour me rassurer. Faut que ça avance. Dieu. J'ai ni vu.
26 rue Pinel nous chantait « Faut que ça pousse ».
Merci Maurice pour cet excellent choix musical. Je suis toujours en compagnie de François Baruel, Catherine Bourderon au microphone et nous avons un sujet intéressant et une femme vraiment très, en fait, pleine de surprises. Nous sommes en compagnie de Nathalie Best. Elle est importatrice de poivre de la région de Campote, au Cambodge. Elle nous a amené plein de poivre et elle vient ici nous parler de l'art du poivre. Bon, d'abord, bonjour Nathalie.
Bonjour.
C'est très gentil d'être venue parmi nous.
Ça fait un grand plaisir d'être ici.
On parle rarement de poivre. On parle de café, de bon vin, mais d'aimer le poivre, s'initier aux arômes du poivre, c'est quand même rarissime ou je me trompe?
Ah bon, mais alors comme les gens ont des bons vins, on a des bons poivres. Mm-hmm. Et dans notre cas à nous, le poivre de Campote se trouve être parmi deux poivres qui sont appellation contrôlée. Alors vous avez le poivre de Cameroun en Afrique et vous avez le poivre de Campote qui est une région au Cambodge. Parce qu'il ne faut pas se tromper parce qu'il y a d'autres poivres qui sont cultivés au Cambodge qui ne sont pas le poivre de Campote. Il faut être vraiment membre de l'association de Campote et être sur le terroir de Campote pour être appelé le poivre de Campote.
Donc, vous importez du poivre de Campote. Les poivres sont vendus à travers un site web qui s'appelle laplantation.ca. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait appeler votre poivre du poivre équitable. Il y a une très belle mission derrière cette démarche.
Oui, exactement. Alors, la plantation comme telle, c'est un projet social au Cambodge. C'était fondé par des Français, Guy Poré et Nathalie Chaboche. Puis l'idée, c'était vraiment de passer au suivant, si vous voulez, parce que c'est des gens qui ont eu beaucoup de succès dans leur vie. Puis là, ils ont vu que, en premier, ils avaient une passion pour le poivre. Puis ils ont vu qu'ils pouvaient aider le monde au Cambodge. Alors, comme ça, à l'instant, on a à peu près entre 100 et 50 employés à temps plein. Puis les employés puissent rester sur place, logés, nourris. Mais en plus, on a une école qui se trouve juste à côté de la plantation. Puis ça, c'est un de nos objets. C'est vraiment d'avoir une mission sociale avec cette école. On fournit les vélos pour les enfants. On donne un supplément pour les salaires, pour les profs aussi. Parce que qu'est-ce qui arrive au Cambodge, c'est que les profs ne travaillent pas à temps plein parce qu'ils ne gagnent pas assez d'argent. Alors comme ça, on s'est dit, bon, en échange de nous d'avoir des produits gourmets, on peut soutenir le monde au Cambodge. Alors avec l'éducation, puis comme je vous ai dit, de laisser les employés rester logés, nourris.
Donc concrètement, vous importez du poivre, mais dans la région de Campote, il y a des écoles. Vous aidez ces gens-là à vivre de votre passion du poivre, c'est ça?
Exactement. Alors, c'est un bel échange. Alors, parce que, évidemment, et aussi pour ces gens, ils découvrent vraiment leur poivre aussi, parce que pour un certain temps, ça a presque disparu à cause de la guerre au Cambodge. Alors, parce qu'il y a très longtemps, le poivre de Campote, c'était toujours recherché par les chefs en France. Et même maintenant, on trouve qu'on a les chefs qui sont étoilés Michelin. Ils cuisinent avec le poivre de notre plantation au Cambodge parce que nous sommes certifiés bio.
Donc pour
en
être...
plus.
Oui, en plus.
Alors, pour être in, faut goûter à vos produits. D'ailleurs, vous en avez amené quelques-uns. Est-ce que vous pouvez nous en parler, peut-être? D'abord, c'est quoi le meilleur poivre, selon vous? Il y a du poivre rouge, du poivre... C'est quoi? Est-ce que c'est bon pour la santé? Qu'est-ce qui
oui,
est... c'est bon. Bon pour le goût?
Oui, c'est surtout bon pour le goût, mais c'est bon aussi pour la santé. Mais alors, si on parle de poivre, il faut comprendre que le poivre, quand c'est cultivé, ça commence vert. Quand c'est pas mature, c'est vert. Et le vert, quand c'est séché au soleil, ça devient notre poivre noir. Mais nous aussi, on a un poivre, c'est les grains de poivre qui ont été macérés dans le sel de mer. Ça, c'est le poivre frais au sel. On va vous faire découvrir ça dans quelques instants. Nous avons le poivre rouge. Le rouge, c'est quand c'est mature. Alors, et le blanc, c'est quand c'est le rouge qui a été trempé, l'extérieur enlevé, puis ça donne le poivre blanc.
Il était épluché, en fait.
Pardon? Oui, exactement, exactement. Et c'est les chefs qui vont faire des sauces blanches qui vont chercher toujours ce poivre blanc. Tandis que le poivre rouge, qui quand c'est à maturité, c'est plus fruité. Puis on peut dire que le poivre noir, c'est plus fort. C'est certain, c'est très bien avec les viandes. Mais aussi, on a un poivre fumé. Alors, c'est fumé à froid avec l'écorce de noix de coco. Mais qu'est-ce qu'on veut...
Oui. Nous voulons goûter.
Ah bon, on va commencer avec...
J'ai pris un petit pot de poivre frais au sel.
Oui. OK, mais ça va servir ça comme bon, dessert.
Okay? Ah oui?
C'est vraiment un dessert. On a envie d'en faire une tartine.
Oui, bien sûr. OK, on va commencer avec le rouge. Je vais verser le rouge. Alors, comme ça, vous allez sentir en premier, vous allez remarquer que c'est fruité. C'est bon.
On peut mettre ça sur une tarte aux fraises?
Ah oui, ça serait excellent, vraiment.
C'est très bon.
Oui, et surtout pour les gens qui trouvent que le poivre noir, peut-être c'est un peu fort. Alors, comme ça, ils vont aller avec ça. Ensuite, on va aller avec le noir. On a commencé avec le rouge parce que des fois, les gens ne puissent pas vraiment apprécier d'autres poivres après parce qu'ils ont goûté puis c'était trop fort. Ouais. OK, ensuite, c'est le noir.
Ah.
Est-ce que vous en avez? Oui,
donc c'est... ça, c'est le noir, le poivre noir de Campotte, c'est ça?
Oui, exactement.
On peut avoir une étoile Michelin si on cuisine avec ça chez nous?
Non,
c'est
peut-être.
Ça.
Non, mais moi aussi.
On commence
aussi.
Comme ça. On commence avec ça. Ça sent très, très bon. Hein.
Oui. Non, vraiment. Ça, très, là, très ça bon. Goûte pas le poivre du IGA.
Faut pas le dire, ça lui fait de la peine, IGA.
Mais on a des bons produits aussi là-bas.
Ça sent vraiment très, très
bon. OK. Bon, maintenant, on va... Alors, comme ça, je vais vous donner un peu de poivre fumé. Alors, mais c'est à vous de décider si vous allez goûter, parce qu'évidemment, vous avez d'autres poivres en bouche. Alors, voilà. Même au nez, on peut voir...
Celui-ci, il est fumé?
Oui, il est fumé à froid. Oui.
Il s'appelle comment, celui-là?
Ça, c'est le poivre fumé, le poivre noir fumé, parce que nous avons aussi le poivre blanc fumé, mais on l'a pas avec nous aujourd'hui.
Oui.
Mais ça donne un goût très curieux.
Voilà,
hein.
Celui-ci, il est beaucoup plus puissant que les autres. Hein.
Ah, mais les gens disent ça, mais c'est curieux parce que c'est toujours le même poivre noir, mais sauf que c'était fumé à froid avec l'écorce de noix de coco et de riz.
Mais c'est très riche, en fait, comme odeur.
Oui, on dirait qu'il a rissa dedans.
Oui, et c'est tellement intéressant comme goût, parce qu'une fois, bon, je me suis trompée de moulin, puis j'ai mis dans la recette pour la vinaigrette pour la salade César, mais ça a donné tout à fait un autre goût, c'était exceptionnel.
Oui, j'imagine.
Vraiment bon. Maintenant, je suis certaine que vous êtes curieuse de vraiment goûter qu'est-ce que c'est le poivre au sel. Alors, il faut que je vous dise...
Curieux.
Alors, le poivre au sel, bon, dans le fond, c'est mou. Mais il faut mentionner que ça a gagné Best of Gourmet à Paris, puis également ça a rapporté la médaille d'or à Bruxelles pour Monde Sélection. Alors comme ça, je vais vous faire goûter.
Ah,
on va tourner la main parce que c'est bon, on ne va pas le perdre. Voilà.
Est-ce que le steak vient avec ou... Il est mou, hein?
Oui. Alors, c'est ça. C'est... Bon, on peut remplacer les capres par ce poivre. Alors, qu'est-ce que vous pensez?
Je dis oui.
Très bon. C'est vraiment très bon. C'est très bon, mais attention, c'est très fort. Hein?
Bon, c'est fort qu'on le mange tout seul, mais sauf qu'il faut apprécier, servir avec un bon fromage de chèvre.
Oui,
c'est
tout à
excellent.
Fait.
Avec les fraises. Et même aujourd'hui, pour mes amis ici à la radio, j'ai emmené du chocolat. C'est le chocolat de Montebello, qui est un produit aussi équitable. Puis là, c'est un chocolat avec le poivre au sel. Vous allez goûter ensemble. Parce que pour vous donner des idées, avec le poivre au sel, ça pourrait être bon comme garni sur un mousse au chocolat. Alors, évidemment, sur la viande après cuisson, avec le saumon fumé.
Mais pourquoi c'est bon pour la santé de manger du poivre?
Ah bon, c'est bon pour la digestion. Mais c'est curieux parce qu'il y a des gens qui disent que ça leur affecte, mais peut-être vous avez des idées pour ça. Mais en général, c'est bon, mais aussi pour absorber le curcuma, parce qu'on a aussi un produit qui est le curcuma de Cambodge, qui est excellent, qui a 10 % de curcumine.
Et ce qui est intéressant pour le bénéfice de nos auditeurs, certes, il y a le site internet laplantation.ca, mais vous avez aussi une boutique à Hudson qui s'appelle Ibu. On vend quoi dans cette boutique au juste?
Ah bon, parce qu'au Cambodge, on ne travaille pas strictement avec la plantation, on travaille directement avec les artisans. Alors, nous avons des tisserands qui créent des magnifiques foulards, couvertures. Alors, dans notre boutique, vous allez trouver une variété de produits équitables, non seulement de Cambodge, mais aussi des alentours de Hudson, parce qu'on aime bien soutenir nos artisans aussi.
Mm-hmm. Alors, donc, des foulards tissés?
Oui, c'est tout tissé à la main avec les métiers traditionnels. Puis, encore une fois, en encourageant nos tisserands et nos mondes qui travaillent au Cambodge, on avait nominé un de nos tisserands comme femme de l'avenir de Sud-Asie l'année dernière. Puis, elle a terminé parmi les 3 dernières finalistes. Alors, vous pouvez imaginer comment est-ce que ça change sa vie. Ça ouvre des marchés.
Au juste, c'est combien de gens qui sont dans tout ce gros projet de plantation du poivre? Bon. C'est-à-dire que ceux qui vendent, ceux qui sont sur Internet, ceux qui viennent vous visiter, des gens sont... Ça englobe combien de personnes, cette initiative?
Je dirais que la plantation, ça touche un minimum de 1000 personnes parce qu'il faut considérer, on a les gens qui travaillent à la plantation, mais sauf que quand c'est la récolte, évidemment, on a beaucoup plus de monde qui travaille avec nous. Puis évidemment, c'est des gens tout près avec le transport. Et c'est pas juste ça, on est numéro 1 avec TripAdvisor au Cambodge. Alors, on reçoit beaucoup de touristes. Alors, comme ça, on a des guides qui travaillent sur place. Alors, vraiment...
On peut aller dormir...
On peut dormir dans la plantation?
Non. Non, on peut pas dormir là-bas. Sauf que si on y travaille, peut-être. Mais non. Non, parce que l'idée, c'est parce qu'ils voulaient pas être vraiment... C'est pas un projet touriste, c'est juste par chance. Bon, c'est coïncidence que là, ça tombe à être numéro 1 sur TripAdvisor, mais c'est tellement intéressant pour les gens... Parce que souvent, les gens posent les questions, est-ce que c'est vraiment équitable? Comment est-ce qu'on puisse savoir? Mais là, les gens, c'est très transparent, les gens voient tous.
Écoutez, merci beaucoup, Nathalie Best.
Merci, Nathalie Best.
C'est vraiment très intéressant.
Alors, je rappelle que vous avez un site web, laplantation.ca, et qu'on peut vous voir, vous, Nathalie Best,
moi-même,
à Hudson, à la boutique Ibu.
Il nous reste maintenant à remercier Nathalie Bess, bien sûr, et puis aussi Monique Régimbald et Marthe Saint-Laurent d'être passées, venues nous voir, et Mathieu Bolduc.
Maurice Bolduc, pardon. L'excellent choix musical. Hein.
Dans son excellent choix musical, dans son aquarium. Et merci beaucoup, Catherine.
Merci, François. À bientôt.
À bientôt.